Sauf que là, ils commencent à nous référer plein de clients. Et là, on commence à être sous l'eau. Il y a tous les indicateurs qui sont rouges. Ce qui est important, c'est surtout votre journée, l'aventure que tu vis plus que le end goal. Pour moi, c'est pas une réussite. T'as passé 20 ans de ta vie sur peut-être tes plus belles années à avoir une expérience désagréable.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Patrick Marinski. J'y suis ou pas ?
Oui, très bien.
Très bien. Tu es un multiple entrepreneur, tu as fondé plusieurs sociétés et ici on va creuser surtout Web Interprète et Global, si je ne dis pas de bêtises. Alors j'essaie de résumer les deux business qui se ressemblent en partie. Donc Web Interprète, l'idée c'était d'aider les e-commerçants présents sur les plateformes de revente en ligne type eBay, type Amazon, à se déployer à l'international de manière simplifiée. Donc les challenges, on va en parler tout à l'heure, mais quand on passe d'un business 100% français à un business qu'on veut déployer par exemple en Angleterre, il y a un tas de problématiques qui sont liées à la monnaie, à la distribution, aux fiches produits en elles-mêmes. Et donc tu as développé une plateforme qui facilite cette transition. Donc ça c'est la première société. La société c'est Global en fait, qui j'imagine issue de ces apprentissages permet en direct cette fois-ci auprès des commerçants, donc on passe plus par un intermédiaire, de faire cette partie de revente à l'international, notamment avec toutes les problématiques qui sont transfrontalières. Si on prend l'exemple d'une grande marque de luxe qui décide de se vendre en Suisse, par exemple, ce n'est pas la même problématique que vendre dans le circuit européen monnaie euro. Et du coup, ces deux sociétés combinées font aujourd'hui 220 personnes, une présence dans 8 pays. J'ai noté qu'il y avait 33 000 marchands qui utilisaient les solutions et que tu avais fait une levée de fonds de 20 millions d'euros en série A l'année dernière.
C'est bien ça.
Bah, bienvenue.
Merci. Salut Patrick.
Ouf, on est bon. Dans le podcast, il y a trois parties. La partie qui est le 0 to 1, on va s'intéresser vraiment au go-to-market en fait, au début. Tiens, comment on se lance dans une aventure comme celle-ci et à quel moment tu commences à te dire tiens, maintenant ça commence à marcher. La deuxième partie sur le scale où Aymeric va creuser deux points spécifiques qui selon lui et selon l'impression qu'on a faite sont intéressants à creuser avec les auditeurs. Et un dernier point sur le next game finalement, maintenant vers où tu vas aller.
Et ouais, ce qui marche bien dans le podcast, c'est un peu les punchlines, les phrases courtes qui retiennent des concepts un peu clés de ce que tu as pu faire.
Ok, très bien.
On m'a remonté le point il n'y a pas longtemps.
Merci Julien.
Après, c'est ma seule intervention.
Non, et t'as la conclusion en trois points après.
Ouais, ouais. Je suis concluseur, moi.
Okay. Donc, si on revient au 0 to 1, justement, on se projette en quelle année ? En 2007, si je ne dis pas de bêtises. Oui.
2007. Donc, j'ai créé déjà, j'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat à l'EM Lyon. Okay. J'ai rencontré mon futur associé, en fait. Et tout de suite après ce master, j'ai créé d'abord une première société de services informatiques. Là, mon associé, lui, travaille pour une PME à Paris. Et il a fait appel à mes services parce qu'il y a un très gros projet informatique qui démarrait. Donc on a beaucoup travaillé ensemble ici dans un bureau à Paris. Et à un moment donné, mon futur associé me dit « Tiens Patrick, j'en ai marre d'être salarié, j'aimerais bien me lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Et voilà, donc je vais démissionner de ma boîte, sache-le. » Moi, j'étais un peu gêné parce qu'il était chez mon client, chez mon plus gros client.
T'as dit, réfléchis bien.
Je ne vais peut-être pas leur piquer un de leurs éléments clés. Mais bon, au final, voilà, il avait pris sa décision, donc c'était irréversible. Et je lui dis, bah tiens, il y a un projet que dans ma boîte de services informatiques, dans lequel j'avais commencé à investir. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Si ça t'intéresse, tu peux, viens, on fait un business plan et tu peux développer le projet. Très bien, donc voilà, il a commencé à développer le projet. À la base, je me suis dit, il va gérer le projet, ça va marcher tout seul. Et moi, je vais regarder ça de loin. Et bon, ça se passe jamais aussi facilement, malheureusement. Et après, voilà, de fil en aiguille, je commence à m'impliquer de plus en plus dans ce projet. Et après, j'ai même revendu la boîte de services informatiques. Bon, c'était une petite boîte, hein, pas au niveau de Théodo, la boîte avait un an, donc, mais j'ai revendu au directeur informatique. Et voilà, je me suis lancé corps et âme dans...
Mais ça aurait pu être autonome. C'était un projet vraiment ad hoc que tu avais.
Ouais, c'était un side project au début.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. En théorie, oui. Après, la réalité, c'est que lancer une startup, en plus de développement de logiciels, on est éditeur de logiciels, il y a tellement de challenges, de product market fit, channel fit, financement et autres, que lancer ça tout seul, c'est quand même très compliqué.
Ouais. Et tu avais une business de service d'un côté, et en plus, là, tu voulais lancer dans un logiciel.
Donc, c'était un produit.
Donc là, tu bascules.
Là, je bascule, voilà. Corps et âme, on met le doigt, comme on dit, et puis on nous prend le bras, et ainsi de suite. Et je pense qu'il y avait une question aussi par rapport donc au déroulé, c'est un peu le 0 to 1, comment on acquiert nos premiers clients.
Ouais, comment tu sens que ça pousse à un moment donné, que tu dis j'ai mis le doigt sur le bon truc.
Ouais, alors déjà, peut-être les premiers clients, donc le réseau m'a bien servi, notamment le réseau école. Quand j'avais fait notamment le master spécialisé en entrepreneuriat à l'UAM Lyon, c'est pas pour faire de la pub spécifiquement pour une école plutôt qu'une autre.
Mais on peut faire de la pub à l'UAM Lyon.
Pourquoi pas. Mais c'est surtout pour dire que voilà, ces réseaux d'école, au début, ça peut aider à créer un réseau. J'avais hésité quand même à investir dans ce master spécialisé après une formation plutôt informatique, parce que ça coûte assez cher. J'avais fait un prêt, tout ça. Mais en fait, c'est là où j'ai trouvé mes premiers investisseurs, donc des business angels, des collègues de promo qui avaient un peu de fonds familiaux. Et également, bon, mon associé, avec lequel on est toujours ensemble. Et également, voire même via ce réseau des premiers clients. Via ces réseaux d'école, des premiers
ouais,
clients.
Ouais, donc tu t'achètes un réseau.
C'est ça.
En plus, tu l'as
pas vraiment. Si on sait l'exploiter, ce réseau, ça peut avoir pas mal de valeur. Ouais. Ça, c'est intéressant.
Ça, c'est un premier. Enfin, c'est un peu moins de leverager son école qui coûte un certain
bah, chez montant. Chez KHEC, ils le font au max, hein, ça, de leverager le réseau.
Non, mais on a peu de retours là-dessus, donc c'est intéressant. Ouais.
Et je pense que souvent, même dans les statistiques, on voit que des belles entreprises ont été créées par, en pourcentage plus important, par des personnes qui sont sorties de certaines grandes écoles. Je pense que c'est pas tant parce que les personnes sont plus brillantes, mais aussi le réseau les a pas mal aidées à. Surtout au démarrage,
à
bien se lancer et à bien s'entourer aussi.
Et du coup, tu te rappelles peut-être des premiers clients, les premiers soubresauts, comment ça se passe et à quel moment ça devient véritablement un projet viable?
Alors, on a un peu pivoté quand même au début, le fameux pivot dans la startup où au début, le projet Web Interprète, ce qu'on a développé, c'est une solution qui permettait à ce que chacun parle dans sa langue et s'entende dans sa langue à distance. Donc, je parle français, tu parles chinois, tu parles russe et chacun à distance s'entend dans sa langue et autres, avec des interprètes à distance sur Internet qui ont tout un système de routage de voix et ainsi de suite.
Ça pourrait servir à Julien Masson.
Pour l'anglais, pour la version anglaise.
Pourquoi pas. En tout cas, bon, on n'a pas continué à développer ça, parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur ce business-là, on n'avait pas beaucoup de récurrence, au final. C'était pas super scalable, parce que ça demandait quand même pas mal de
ouais, c'est un pain point un peu isolé,
c'est
non?
C'est ça, un peu isolé. On a une boîte qui fait une acquisition, je me souviens qu'il y avait Obad qui avait fait une acquisition en Corée. C'était en plein pendant les fêtes de Noël, donc nous, on fêtait pas Noël. On était en train de suivre les conférences d'Obad qui faisait son acquisition. Et une fois voilà qu'elles ont fait leur acquisition, elles ont des personnes en place, et ensuite après, elles n'ont pas forcément besoin du service. Donc assez peu de récurrence, et au final, on investit dans l'acquisition, peu de récurrence.
Ouais, tu peux te payer un interprète à ce moment-là.
C'est ça, et on s'est rendu compte que voilà, la récurrence est aussi clé pour scaler les business. C'est beaucoup plus facile en tout cas de scaler un business quand tu as une forme de récurrence. Dire, ouais. Absolument.
C'est répétable.
Ouais. Donc on a un peu pivoté. Là, encore une fois, via un peu le réseau, plus le réseau de l'OM Lyon, mais un peu le réseau professionnel. Je me souviens, j'avais un prof d'anglais, parce que je prenais... Voilà, je suis pas le seul peut-être à pas être super en anglais, je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste...
Non, mais je fais des conférences en anglais, des jaloux, je fais des TED.
Ah, d'accord.
C'est des connes valées.
Mais voilà, j'avais un accent pourri en anglais, et du coup, vu qu'on travaille pas mal aussi à l'international, je me suis dit, bon, je vais prendre des cours au moins pour améliorer...
En Californie, vous m'avez bien servi l'accent français à la con.
Ouais, en plus, en fonction des pays, les accents sont différents, c'est pas toujours évident. Ouais. Et donc voilà, j'ai ce fameux prof d'anglais en Angleterre et qui m'explique, voilà, j'ai un side business, moi j'achète sur des places de marché des produits, c'était des vestes en cuir, et les revendais dans d'autres pays, toujours sur une place de marché, mais dans d'autres pays. Je lui dis, bah tiens, c'est un peu con qu'il y ait quelqu'un qui soit obligé de faire un bon business avec ça, d'acheter des produits dans un pays sur la même place de marché, aller les revendre dans l'autre et autres. Il y a sûrement peut-être moyen de réutiliser un peu notre technologie aussi de traduction et autres pour faciliter ça. On a commencé à faire des tests. Là, ça a commencé à faire des ventes. On a commencé à démarcher les premiers clients où leurs ventes ont commencé à bien augmenter. Et là, on s'est dit, bon, on commence à avoir quelque chose. Mais en tout cas, voilà, c'était encore assez timide.
Ouais, mais là, tu tenais un vrai...
Voilà, un vrai produit. Product market fit. Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est de valider qu'on délivre la valeur ou la promesse, comme on appelle ça. Là, la promesse, c'était augmenter ses ventes. Et là, ça augmentait bien les ventes. Donc, on s'est dit, tiens, on a quelque chose. Et au moment, pour répondre à ta question, on s'est dit, bon, là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de partir fort. C'est que dans notre petit bureau à Sophia Antipolis. D'ici là, on avait bougé de Paris à Sophia Antipolis parce qu'il y avait un incubateur qui nous avait invité à...
J'habitais à côté.
À Sophia Antipolis, ouais, c'est pas très loin de Cannes, c'est à côté au-dessus d'Antibes. Ouais. Très charmant, mais il n'y a pas beaucoup de talent, donc je ne recommande pas forcément d'aller là-bas.
Maintenant, il y en a
pour ce qu'elle est.
Il y a au moins Julien Masson, voilà, c'est quelque chose quand même.
Pour ce qu'elle est, ce n'est pas évident. C'est sympa au début, mais après, dès qu'on scale, justement, on a vite besoin d'aller à un endroit où il y a plus de talent. Donc on commence à... On avait ce petit bureau avec 5-6 personnes à Sophia Antipolis, et on a IB qui nous contacte. Le siège pour nous dire, tenez, on a entendu parler de votre solution auprès de certains vendeurs. Nous, on cherche une solution justement sur notre plateforme pour aider les marchands à scaler à l'international. Ils viennent nous voir dans notre bureau un peu.
Les Américains.
Ouais, notre bureau un peu ringard, pas super moderne et autres. Et ils nous disent, voilà, on veut tester, voir si ça scale, si ça génère bien de la valeur et autres. Donc on a assez rapidement validé ça et après ils ont dit, tiens, génial. Maintenant, on va commencer à vous référer des clients. Donc, on dit, cool et tout. Donc, on commence à faire un plan avec eux. Très bien, allons-y. On est jeunes entrepreneurs ambitieux. Pas de problème, on y va. Sauf que là, ils commencent à nous référer plein de clients. On en a un peu parlé. Et là, on commence à être sous l'eau, mais il y a tous les indicateurs qui sont rouges. Là, le support qui est au rouge, les sales sont rouges, la plateforme en rouge. Enfin là, ça commence à être...
Ça craque de partout.
Ça craque de partout.
Régis, il appelle ça la startup disease. C'est vrai que j'ai fait avec l'accent.
Ouais, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bon... On est un peu comme des lapins.
Donc t'es avant le scale en vérité.
Ouais c'est ça. On est avant le scale, mais en tout cas on sent que il y a quelque chose qui part fort.
C'est quoi la proposition de valeur qui matche bien là à ce moment-là d'après toi qu'ils achètent?
Le truc qu'ils achètent, c'est que bon, ça augmente les ventes déjà, et eux vu qu'ils prennent un pourcentage sur les ventes, c'est tout bénef pour eux. Et ensuite en plus ça leur génère des catalogues de produits dans des pays où ils ont potentiellement moins de catalogues de produits. Donc,
Tu crées du contenu.
Je crée du contenu, donc ça leur génère plus d'acheteurs aussi qui viennent pour ce contenu et plus de ventes, et ils prennent un pourcentage sur ces ventes. Donc pour eux, c'est tout bénef, quoi. Enfin, les plus gros gagnants dans l'histoire, souvent, c'est ces grosses plateformes. De toute façon, c'est des GAFA.
Mais le vendeur de pioche, c'est financier, quoi.
C'est ça, ouais. Nous, on était bien contents de participer à ça parce que ça nous a aidé à bien accélérer. Et là, on commence à recruter des dizaines de personnes, vraiment une dizaine de personnes par semaine ou par mois. Et là, bon, notamment d'où la localisation, parce qu'on parlait de Sophia Antipolis, qui est sympa, mais bon, on devait recruter on ciblait surtout les marchés anglais, allemands. Et là, alors à Sophia Antipolis, pour recruter des gens natifs anglais qui ont de l'expérience en e-commerce, voire en nouvelles technologies et autres, bon, ça commence à devenir super compliqué. Bon, je me souviens, on m'avait présenté un ancien militaire qui avait 50 ans, qui parlait allemand, enfin un ancien militaire allemand pour vendre solution e-commerce, c'était pas forcément bien adapté. Pareil, on visait aussi le marché anglais, enfin anglais et le marché allemand, donc c'était pas évident. Et on avait quelques développeurs en Pologne historiquement. Et on dit, bah, tiens, on va essayer de passer des annonces, des offres d'emploi aussi en Pologne à ce moment-là. Et là, on voit que... Enfin, c'est un peu le test and try, hein, toujours. Et là, on voit qu'on arrive à recruter pas mal de monde dans nos bureaux à Varsovie.
Qui parle, les Polonais parlent allemand.
Qui parle bien anglais et allemand, parce que c'est un pays un peu... C'est un peu comme Dublin, où il y a eu beaucoup d'immigration, de familles qui ont immigré en Angleterre, en Allemagne.
Ouais, c'est cosmopolite.
Et du coup, quand les familles sont revenues avec leurs enfants, les enfants avaient grandi en Angleterre ou en Allemagne, donc ils étaient natifs anglais ou allemands, plus... une semaine pour changer de travail, alors qu'en France, on mettait presque 6 mois à recruter des gens à Sophia Antipolis, parce qu'il y a 3 mois pour de préavis, 3 mois pour que les gens déménagent. Donc au final...
Donc là, t'as bougé à Varsovie à ce moment-là?
Alors pas tout de suite. Alors là, on a commencé à recruter pas mal, j'y allais toutes les semaines.
Faut dire que t'es d'origine polonaise aussi.
Tu parlais la langue.
Je parlais un petit peu la langue, donc ça a aidé, voilà, parce que mes parents sont d'origine polonaise. Je suis né en France, mais ils sont d'origine polonaise, donc ça m'a aidé, hop. Donc, on a commencé à scaler
sur le réseau.
Le bureau. Ouais, sûrement. Ouais. Et on a commencé à scaler le bureau là-bas, à Varsovie.
Donc, là, en tout cas, avant de passer à Eric, ouais. Là, ça avait commencé à tracter fort.
Ouais, là, ça commence à tracter fort, parce qu'il y a des semaines où on recrutait vraiment des dizaines de personnes. En Pologne, ce qui était bien à l'époque, c'est qu'il n'y avait qu'une semaine de préavis. Donc, on payait mieux que tout le monde, parce qu'à l'époque, c'était pas un marché. Le marché interne était pas très développé. Donc, c'était facile de recruter des top talents super vite. Et là, voilà, on avait vraiment une machine qu'on pouvait scaler. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Je crois, l'accès au talent quand on doit scaler, trouver les endroits où on va pouvoir, parce que souvent ça peut être un facteur limitant, je pense, même pour Théodo ou autre. Voilà, c'est quelque chose qui est pas évident. Il y a sûrement d'autres solutions aussi, mais donc là, ça nous a bien aidé à pouvoir scaler. Donc, on s'est On a reparlé avec notre partenaire, l'AIB, on leur a dit, bon, écoutez, on veut bien scaler avec vous, mais allons-y progressivement, parce que là, passer de 10 à 1000 overnight, c'est juste impossible. Donc voilà, après, on a...
T'aimerais que tu vas aborder justement les points de scale.
Ouais, c'est parce que, du coup, le premier, on parle souvent de la culture d'entreprise. On en a beaucoup parlé à ce podcast, mais toi, on a eu la chance, de monter deux business qui étaient assez similaires, mais différents. Tu peux revenir d'ailleurs sur le deuxième pour expliquer. Donc, le premier, c'était une vente indirecte. Tu passais par les plateformes et donc, finalement, tu n'avais pas d'équipe de vente en direct. Ouais. Et le deuxième, à l'inverse, tu avais des équipes de vente en direct. Et j'étais intéressé que tu développes un peu et tu nous expliques pourquoi le go-to-market pouvait définir la culture d'entreprise.
Ouais, c'est un très bon point. Alors, c'est vrai que sur la première boîte, comme on l'a compris, vente indirecte, donc on reçoit surtout des clients. Le vrai focus, c'est comment bien processer... Comment bien processer tout ça, parce que c'est des milliers de petits clients, quelque part. Donc, pour être sûr qu'on soit rentable sur chaque petit client, que chaque process soit ultra automatisé, il y a des notifications pour recontacter les marchands au bon moment et autres.
Donc, grosse attention produit.
C'est ça, produit et process ultra automatisé pour gérer ces milliers de petits clients. Deuxième boîte, donc Global, où là, on a créé une boîte, en fait, dans Web Interprète, on a développé, boîte assez rentable, juste pour faire la transition. Et quelque chose auquel ne pensent pas tout le temps les entrepreneurs aussi en termes d'exit potentiel, c'est le LBO. Le LBO, donc pour faire simple, Leverage Buyout en anglais, c'est quand on a une boîte rentable, on peut faire de la dette auprès de la banque pour en fait racheter les parts, nos parts ou les parts des investisseurs et autres. Et vu que la première boîte était assez rentable, notamment aussi grâce au fait qu'on se développe avec des partenaires, le coût d'acquisition de clients était assez faible, on a pu, on avait à peu près 30% de rentabilité. Donc, à un moment donné, on avait des investisseurs en plus qui devaient sortir. Au bout de, ils avaient des fonds qui avaient 7 ans de durée de vie. Ils ont dit, voilà, on doit sortir. Donc, on a une opportunité de racheter ces investisseurs à un bon prix. On avait un top management qui voulait prendre plus d'autonomie. Et du coup, on s'est dit,
t'as organisé la transmission. Voilà, t'as fait ton LBO pour organiser la transmission.
On lève de la dette. On rachète les parts des investisseurs. On fait même un peu de cash out pour créer une nouvelle boîte, puisqu'avec mon associé, on était intéressé pour démarrer une nouvelle aventure, et le top management, on incentive pour qu'ils puissent prendre l'autonomie et les opérations.
Ouais, t'organises tout ça grâce à un LBO.
C'est ça.
Voilà. LBO, parce que rentabilité et parce que process bien rodé.
Exactement, parce qu'on n'est pas dans la start-up classique qui a levé et qui est en cours de, enfin, qui essaie de chercher de la rentabilité. Toi, tu avais un business model qui était très rentable, des coûts d'acquisition très faibles, pas de route de la revente.
On avait levé, mais pas trop. Ouais. Et voilà, et grâce à cette vente indirecte.
T'aimerais que tu peux expliquer en deux mots ce que c'est un LBO, même si tu l'as expliqué pour ceux qui écoutent.
Le concept est simple, comme tu disais, tout simplement, à partir du moment où ta société permet de générer des cash flows, de la trésorerie, ça veut dire que tu peux lever une dette et que cette dette te permet aussi de racheter des titres. D'habitude, on peut prendre de la dette pour s'endetter, pour acheter un immeuble, etc. En l'occurrence, là, pour racheter des titres. Et donc, si je comprends bien, tu es resté quand même actionnaire pour partie, tu as vendu une partie de tes titres et tu as surtout aidé les managers du dessous à racheter la société. Et avec ce capital, tu es allé monter la deuxième société qui est Global.
Ouais, mais ce qui est bien, c'est que sur la première, tu as fidélisé tes top managers qui avaient la hargne parce que tu les as un peu...
Exactement, mais ils sont incentivés, donc ils peuvent avoir de plus en plus de parts aussi. C'est assez intéressant, mais là, on avait quand même fait des levées de fonds, donc je suis passé d'une boîte où j'avais à peu près 30% de parts à une boîte après, avec mon associé où on avait, après le LBO, 80% de parts, où en plus on a fait du cash-out. On aurait pu potentiellement faire plus de cash-out suivant ce qu'on voulait faire, et notre top management qui a été incentivé dans le temps, qui va avoir de plus en plus de parts aussi. Et des parts aussi dans une nouvelle boîte qu'on a créée.
Ouais. Et pourquoi tu as eu envie de changer un moment? Tu te dis, j'ai fait mon temps, il y a le nouveau management derrière qui pousse en dessous, qui a envie de prendre plus de responsabilités.
Et après, je pense que c'est un peu comme une maison, c'est-à-dire que quand tu construis une maison, à un moment, retaper une maison existante, il y a des limites. Versus créer une nouvelle maison from scratch, tu l'as créée avec complètement d'autres personnes, d'autres systèmes,
c'est
d'autres
process. C'est plus simple, en fait. Tu t'abstrains du change.
C'est plus simple. En 15 ans, en plus, il s'est passé beaucoup de choses. Les technologies, comme quand tu construis une maison, je pense que tu construisais une maison. En plus, les technologies, ça a évolué sûrement plus vite dans les sociétés informatiques que dans les matériaux de construction. C'est comme peut-être si tu construis une maison il y a 100 ans versus si tu construis une maison aujourd'hui. C'est pas du tout les mêmes matériaux, plus du tout le même savoir-faire, et ainsi de suite. Donc
tu repars d'une feuille blanche, t'as pris ton argent de ton cash-out, et tu repars avec le même associé, vous repartez, vous créez ta deuxième société.
Et on crée la deuxième société.
Intéressant, la première a duré 15 ans.
Ouais.
C'est du temps long, en fait.
Je reviens pour pas qu'on se... Sur le go-to-market, donc la première, c'était une vente directe, c'est ça ?
Indirect, parce que c'est les partenaires donc, qui vendent principalement, et nous, on se focalise sur bien gérer les process,
Tu dis quand t'es en vente indirecte, t'es obligé d'avoir une culture produit hyper forte.
C'est ça, produit et process.
Tu mets le braquet ici.
Les deux sont un peu liés, parce que tes process, tu les automatises un peu, mais si tu veux, t'as les process de ton produit, les process après même de ton CRM et ainsi de suite de tous tes systèmes informatiques.
Donc une culture d'entreprise très tournée vers ces aspects produits, process, et moins comme dans ta deuxième société, du coup là tu vends en direct, donc là tu dois aller chercher des clients, donc là très sales, très tourné vers les sales.
Absolument, donc la deuxième boîte, donc là toujours dans le domaine, on avait découvert quelque part, il y avait une opportunité parce qu'on avait des clients, quand on avait des marques un peu plus grosses, ça nous disait bon, la place de marché c'est bien, mais là où on fait nos ventes principales, c'est sur nos propres sites e-commerce. Donc on avait identifié cette opportunité, on s'est dit on va faire une solution pour justement ce type de marchands, ce type de marques qui vendent en direct et qui ont besoin aussi d'une solution. Et par contre, là, on a des clients comme Dior, Tag Heuer, Hugo Boss par exemple en Allemagne, on a plus
T'es fait plaisir sur les marques.
Des grosses marques. Enfin, on a eu la chance de pénétrer
le marché du luxe,
de pénétrer ces marques. Mais donc du coup, ça n'a rien à voir entre le petit marchand qui vend sur la place de marché, on en a des dizaines de milliers, et puis des grosses marques qui n'ont pas du tout le même niveau. C'est pas du tout le même process de vente, d'exigence. Il y a quand même beaucoup. C'est pas de la
vente. Tu vas pas du tout la traiter de la même façon.
Quoi. Non, on n'en vend pas 1000 par mois de manière complètement automatisée et ainsi de suite. Au final, les revenus peuvent être comparables, mais les process sont complètement différents et du coup, la culture est complètement différente parce que le focus, justement, dans une boîte qui est très orientée SMB, voire very small SMB, encore une fois, c'est vraiment tous ces process de bien automatiser pour être sûr que tu as un bon...
Pour gérer du volume.
C'est ça. Tu gères du volume, donc en coût d'acquisition versus lifetime value.
Ouais, c'est fine-tuné au maximum.
C'est ça, voilà. Tu concentres surtout là-dessus, sur bien fine-tuner ton modèle pour être sûr qu'il soit pérenne. Et sur quand tu fais plutôt un go-to-market, plutôt vente enterprise, donc à des plus grands comptes. Là, tu as un focus ultra sales où tous les leadership meetings qu'on a chaque semaine, c'est OK sur tel et tel gros deal, où on en est, comment on avance, comment on gagne face à la concurrence.
C'est un point important ce que tu dis, parce que c'est pas qu'une question technologique cette histoire, parce que tout le monde pense que la techno c'est magique, mais faux.
Non, pas du tout.
Tu peux être une boîte tech et avoir une vraie équipe commerciale.
Et en plus, en enterprise, c'est pas forcément toujours le meilleur produit qui gagne. Souvent, c'est ceux qui vendent le mieux, qui sont le plus forts commercialement.
Tu te rapproches des premiers amours de vente de boîte de services, en fait, un peu au début, avec vente sur mesure,
c'est la même chose,
plus gros panier.
Sauf que ton produit, il est un peu standardisé.
Après, rentrer dans le récit du client, j'imagine.
Après, on le fait de manière un peu inconsciente. Maintenant, on s'en rend compte, si tu veux, après coup, de ces vraies différences de culture. On l'a pas fait de manière consciente en se disant, on a envie d'avoir une culture ultra sales. On s'est plutôt dit, sur ce type de produit par rapport au marché, ça vaut le coup d'aller le vendre à ce type d'acteur d'après nous. Et on subit un peu, quelque part, après la culture. Mais je pense que c'est important, du coup, d'essayer de l'anticiper.
C'est ça le point. Le learning qu'il y a derrière, c'est que l'anticiper par rapport à ton business model, c'est intéressant de se poser la question en amont. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu montes une vraie organisation sales et que toute ta boîte va être tournée vers toutes les semaines.
Tu l'avais compris dès le départ?
J'avais pas complètement anticipé. Non.
Ça aurait changé quoi si tu avais anticipé?
Moi personnellement, la partie que je préfère, c'est effectivement designer des solutions. Plus que la partie commerciale, c'est excitant, j'aime bien gagner des deals, mais toutes les semaines, juste à me dire, est-ce qu'on gagne tel deal, comment on fait pour pousser tel client à signer et autres, Bon, je sais le faire, mais ça m'excite moins à terme. Il y en a.
Mais il faut qu'il y en ait au moins dans la boîte qui sache le faire. Parce que tu vois, il y a un moment.
Absolument.
T'as un des deux fondateurs.
Non, mais on a des personnes qui savent bien le faire. On a un super VP of Sales aussi. Julien Dubois, s'il nous entend. Voilà, je lui passe le bonjour.
Qu'est-ce dédié, Julien. J'espère que t'écouteras le podcast.
Voilà, je lui passe le bonjour. Mais effectivement, peut-être que si j'avais vraiment le choix, je dirais peut-être que j'aurais pris d'autres options à la base. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est important d'essayer d'anticiper ça un peu, qu'en fonction du go-to-market qu'on va choisir, la culture va être complètement différente de la boîte. Et il faut aussi qu'il y ait une bonne synergie entre les ressources, c'est-à-dire par exemple les fondateurs de la boîte et derrière la culture. Parce que s'il y a des fondateurs qui sont ultra sales, ils peuvent super bien se sentir effectivement dans un environnement de go-to-market enterprise où ils vont se focaliser principalement sur les sales. Par contre, s'ils sont ultra sales et qu'ils vont dans un environnement où là, c'est d'ultra processing, de petits comptes et autres.
Et de features techniques.
De features techniques, peut-être qu'ils vont.
Mais c'est marrant parce que ce que tu dis, on l'a vu dans deux boîtes qu'on a eues dans le podcast, Tiller qui était culture size à fond et partout qui devait faire cohabiter les deux. Tu te rappelles pas, hein? Parce que lui, il vend des petits comptes et il doit aussi adresser des grands comptes. Il appelait ça les éléphants dans son jargon. Ouais.
C'est difficile de faire le grand écart.
Ouais, mais il nous l'avait expliqué. Je vois bien la nuance entre les deux.
Ouais. Et d'un autre côté, si t'as une équipe de fondateurs ultra techniques ou des ressources ultra techniques qui adorent les process plutôt des ingénieurs, eux se retrouver dans une culture ultra sales parce qu'ils vendent à des enterprises, ils peuvent ne pas se sentir dans leur élément non plus. Et comme j'aime souvent le répéter, je pense que dans l'entrepreneuriat, comme dans la plupart des aventures, ce qui est important, c'est surtout the journey, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'aventure que tu vis plus que le end goal. Tu passes 15, 20 ans à développer ta boîte et ça va, en général, ça prend plus de temps que ce qu'on pense au début, ça va plutôt dans ce sens-là. Tu as une expérience où tu te sens pas à l'aise, que tu apprécies pas, et qu'à la fin, tu fais une très belle vente, pour moi, c'est pas une réussite. T'as passé 20 ans de ta vie, sur peut-être tes plus belles années, à avoir une expérience désagréable, ouais, complètement. Et vice-versa, si t'as une expérience super agréable, peut-être ton end goal, t'as pas une super vente, pour moi, c'est plus une réussite, parce que t'as passé tes 15-20 années de ta vie, à avoir une belle expérience, souvent une belle aventure humaine, et ça, je pense qu'il faut faut vraiment le prendre en compte. C'est vraiment cette aventure plus qui entrepreneuriale qui va compter, plus que le fait de dire ok, je suis sorti avec beaucoup d'argent ou pas au final.
Le deuxième point que je voulais creuser avec toi, c'est évidemment dans lequel l'équipe et l'équipe de management est très clé. Mais ton retour d'expérience, c'est que c'est pas l'essentiel. C'est pas qu'il y a pas que ça. C'est évidemment indispensable. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu avais eu les limites d'une équipe qu'il aurait fallu upgrader dans ta première boîte et t'étais content de pouvoir repartir d'une page blanche et donc du coup de pouvoir construire une autre équipe, sûrement plus dimensionnée, plus capée. Mais j'aimerais bien que tu reviennes sur cette notion des éléments facteurs extérieurs, avoir bien compris son SAM comme tu le mentionnes, bien dimensionner ça, le time to market qui est aussi très important. Tu as eu un retour d'expérience là-dessus, si tu peux partager un peu.
Donc, ce qui est peut-être intéressant sur la première boîte, donc on n'avait pas d'expérience vraiment entrepreneuriale. Quand on a commencé à scaler, en plus, on s'est un peu précipité, on a commencé à remplir des cases un peu à droite à gauche en Pologne aussi, et on avait un middle management qui était qui n'était pas très expérimenté, assez junior, au final qu'on devait pas mal micromanager. Et en plus, dans le scale, le problème, on en avait parlé, c'est qu'au bout d'un moment, si tu as un middle management qui n'est pas assez senior, pas assez autonome, tu t'épuises un peu à le micromanager. À un moment donné, tu n'arrives plus à scaler parce que...
Tu essayes de mettre des process et en plus, ça ralentit.
Et tu fais que de gérer le quotidien.
Ton temps est limité.
Ça mange de l'énergie.
C'est ça, ton temps est limité. Donc, dire à chacun ce qu'il doit faire, quelque part, tu as beaucoup de limites à ça. Tu deviens le bottleneck un peu de ta boîte. Mais d'un autre côté, la boîte a super bien marché, elle a scalé super vite parce que on a eu un super time to market avec des partenaires. C'était le moment où ils voulaient aussi utiliser des solutions comme nous, qui nous ont propulsé aussi avec un middle management moyen. Là, je vois dans une nouvelle boîte, du coup, on s'est dit on va plus faire la même erreur. Là, on va prendre plutôt des top guns parce qu'on a plus envie de micromanager tout le monde. Et puis en plus avec l'âge, t'as un peu moins d'énergie aussi et t'as plus forcément envie d'être au four et au moulin tout le temps. Donc ça, c'est top. Mais par contre, tu vois, c'est pas pour ça que la boîte scale toute seule. T'as quand même des challenges de marché, de concurrence et autres. Tout ça pour dire que voilà, tu peux avoir une équipe moyenne et en fonction de pas mal de l'environnement, scaler en fait super bien. Et j'ai vu d'autres boîtes comme ça aussi qui sortaient à un moment donné une solution comme le marché avait besoin, l'équipe était pas très bonne. Et la boîte cartonnée, et vice-versa. Des fois, tu as des super équipes qui ont du mal parce que soit time to market, soit concurrence, soit pas mal.
T'en tires quoi comme conclusion personnelle ?
Alors, je préfère en tout cas travailler avec des top guns parce que, encore une fois, c'est l'histoire d'aventure. C'est beaucoup plus enrichissant de travailler avec des gens qui sont meilleurs que toi dans leur domaine. Et puis, encore une fois, hein, si on veut mettre en avant.
Il n'y a pas d'ego, quoi.
Ouais. On veut mettre en avant l'aventure. T'as beaucoup plus à apprendre et c'est plus excitant de travailler avec des gens, voilà, dont t'apprends pas mal de choses. Donc à le refaire, je ferai ça. Mais par contre, c'est pas évident de maîtriser tous les environnements externes aussi
En tout cas, il faut bien le regarder. C'est un point d'attention, ouais. Notamment le time to market. Tu me disais qu'il fallait être très, très vigilant là-dessus, ta solution. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que la technologie est bien? Et pareil, bien comprendre son marché adressable.
Absolument. Son marché adressable aussi, on le voit sur notre première boîte. À un moment donné, quand on s'est pas mal concentré avec eBay, à un moment donné, on est arrivé un peu aux limites là, de ce qu'on pouvait faire sur eBay. Et ça a pris pas mal de temps à s'adapter à des nouveaux marchés, parce que souvent, t'as un product market fit, mais t'as un channel fit aussi. Comment bien vendre sur un marché donné et autres. Et ça peut prendre des années, en fait, parce que c'est des cycles des fois de 6 mois ou autre pour tester, vraiment valider. Donc,
channel fit, on n'en parle pas souvent.
Et comment tu fais
comment
ça?
Comment tu appelles ça, le channel fit? Attends, excuse-moi, c'est intéressant comme concept.
Ouais, channel fit, en fait, c'est comment tu vas pouvoir bien vendre ta solution sur un marché donné. Tu vois, donc sur eBay, par exemple, on était bien intégré dans la plateforme. Les clients, en gros, ou les utilisateurs plutôt, commençaient à utiliser la solution en mode un peu freemium automatiquement. Ils recevaient un rapport qui leur montrait qu'ils avaient augmenté leurs ventes. Et on disait à un commercial après qu'ils appelaient, qui leur disait « Vous avez déjà augmenté vos ventes de X sur tel produit. Est-ce que vous voulez faire ça sur plus de produits sur tous les pays ?» Bah oui, appuyez ici et là, ça se vend tout seul. Channel Feed, par exemple, on a essayé de répliquer ça sur Amazon. Amazon... Voilà, faisait déjà pas mal de choses tout seul. On n'avait pas été aussi bien intégré, par exemple, et du coup, ça se vendait pas du tout aussi facilement. À force, donc, on a testé plusieurs approches, et au bout de peut-être 2 ans, maintenant, on a réussi un peu à craquer aussi Amazon, mais voilà, ça peut prendre du temps.
Et tout n'est pas dans ta main.
Et les investisseurs souvent disent, bon, voilà, le plus important, c'est l'équipe. C'est sûr que c'est important, mais voilà, réussir à pivoter et à trouver le bon angle d'attaque, donc bon product market fit, bon channel fit, avec le bon time to market, ça peut prendre des années. Et les investisseurs, aussi pour des bonnes raisons, ne vont pas forcément financer pendant autant d'années la top équipe pour qu'elle trouve le bon réglage. Donc c'est... Voilà.
Juste, du coup, c'est quoi la réponse opérationnelle si, pour les auditeurs, l'entrepreneur qui est dans ta position à ce moment-là, comment il doit s'y prendre, selon toi? Il y a des investisseurs qui leur disent « Moi, je sors dans 2 ans, faut que tu ailles vite, connecte-toi au truc. Enfin, » peut-être qu'il n'y a pas de réponse.
La réponse n'est pas évidente. Il faut réussir à tester vite. Il y a des méthodes. Comme on dit, fake it until tu vois, you sell it et tout ça, où tu vends à des moments des choses que tu n'as pas vraiment pour valider que voilà, il y a ce bon product market fit et autres. Au lieu d'attendre de construire une solution, là tu perds peut-être 6 mois, 1 an, et après que tu commences à la vendre, tu as peut-être déjà perdu 2 ans. Tu vois, on peut essayer d'inverser les process, dire ok, on commence à vendre et on voit quand ça commence à prendre, on a pas mal de certitudes, après on commence à construire la solution. Enfin, il faut essayer de... Il y a aussi une partie un peu étude.
Ouais, ton enseignement, c'est qu'il faut le préparer, en fait. C'est qu'en fait, il faut savoir que l'équipe ne fait pas tout et que c'est important de regarder son marché adressable, son channel fit, vraiment qui est tes compétiteurs, etc. Et de travailler là-dessus et puis de tester pour essayer d'accélérer sur ces éléments qui ne sont pas forcément que dans ta main.
Il faut être agile, tester vraiment, réussir à trouver un bon framework pour tester rapidement. Je suis assez convaincu que les sociétés qui, dans le futur, vont pouvoir vraiment scaler pour le coup et se développer de manière viable dans le temps. C'est des sociétés justement qui sont agiles et qui vont qui arrive à mettre en une bonne organisation et un bon framework pour toujours justement trouver ces bons, je dirais, product market fit par rapport à des nouveaux produits, des channel fit, et à toujours réussir à, voilà, à développer des niches. Et il y a toujours un moment donné où, enfin, sur la plupart des marchés, où tu atteins un peu un seuil. Et par contre, si tu as un bon framework où tu arrives à répliquer ça.
Ouais, en gros, ce que tu appelles un framework, c'est comme si tu étais en train de monter des bébés spin-off en permanence et que tu allais chercher vite.
Voilà.
Et tu touches pas au business model historique.
Et je pense que le marché va de plus en plus vite en plus. Et donc, l'avantage concurrentiel qu'on peut avoir est de plus en plus court aussi. Donc, c'est vraiment.
Faut pas arrêter d'itérer.
C'est ça.
Ouais. Ok. Ce qui est dur, parce qu'en plus, tu disais qu'il faut beaucoup processer. En fait, c'est process versus agilité, c'est équilibré. Évidemment, il faut avoir les deux. En fait.
Absolument.
Sur la dernière partie du podcast, on a envie de discuter avec toi, sauf si Aymeric, tu as...
Non, avec plaisir, vas-y.
Est-ce que tu as réfléchi peut-être à ton endgame ? En fait, finalement, ton deuxième business, il se prolonge dans le premier. Est-ce qu'il y a une troisième voie possible derrière ? Est-ce que tu y as réfléchi ? Est-ce que tu... Comment tu vois les choses maintenant ? Comme tu es quand même dans le temps long, je répète, hein, 15 ans la première société... Là, t'es sur une autre aventure.
Oui, il y a une histoire d'âge aussi. Hein. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, donc je me vois pas arrêter de travailler non plus. Et puis, dans mes investisseurs, j'ai vu aussi des expériences de personnes qui ont arrêté de travailler assez tôt et leur... comment dire ? Ils n'avaient pas l'air très heureux, en tout cas.
Ouais. Une fois qu'ils ont fait un peu de conseils.
Je pense qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que c'est sûr que peut-être à 55, 60 ans, on a une autre approche du temps. Mais bon, à 45 ans encore, j'ai eu la chance de commencer assez tôt aussi, donc... Là, pour le coup, pour les 15 prochaines années, 10-15 prochaines années, je me vois encore aller au moins 10 ans travailler. Tant que mes enfants sortent de la maison, au moins qu'ils me voient travailler à fond. C'est un peu l'exemple que je donne à mes enfants.
C'est bien.
Et donc, pour en revenir au business, c'est des objectifs de chiffre d'affaires, sûrement. 100 millions de revenus. Et après, potentiellement, soit entrer en bourse, soit faire des merges avec d'autres sociétés.
Okay. Je vais conclure. Mais t'es basé où alors du coup ?
Alors notre bureau aujourd'hui est à Paris. Après Global, on l'a créé en plein. Notre première boîte, c'était tout le monde au bureau. La deuxième boîte, on l'a créé en plein Covid, donc c'était tout le monde en remote. Ouais. Et on est resté comme ça parce qu'on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'avantages quand même.
Ce sera un sujet à faire ça.
Ouais. À être en remote, donc moi je suis pratiquement toutes les semaines à Paris, mais j'ai ma résidence principale à Aix-en-Provence. Ouais. J'ai ma femme aussi qui a de la famille.
Ah oui, ce qui explique que tu prends le TGV là-bas. Okay.
T'aimes bien, Julien, les aventures dans le sud et tout.
Ah ouais, ça te plaît. C'est Marcel Pagnol, moi, là-bas. C'est le château de ma mère, la gloire de mon père, surtout vers chez lui, là.
Bah, ma femme est d'Aubagne, juste à côté.
Ouais. Ils ont fait d'ailleurs un bel hôtel là-bas. Trois points que j'ai retenus qui sont hyper intéressants. Je pense que la culture, dès le départ, quand tu expliques est-ce que tu vas faire une boîte produit, est-ce que tu vas faire une boîte size, c'est clé en fonction du marché que tu vas adresser. Et c'est vrai que souvent, on l'oublie que scaler n'égale pas automatisé. Et ça, c'est une erreur qui est beaucoup faite. Deuxième point, ça, on l'a déjà eu dans les podcasts, mais c'est quand même quand tu t'entoures de top gun et qu'il n'y a pas de honte à s'entourer de meilleur que soi. Et au contraire, c'est comme ça que tu deviens plus puissant. Et j'ai bien aimé le troisième point, et j'espère que Thomas m'entend, d'avoir construit un framework où tu essaies de garder toujours une forme d'agilité dans tous les nouveaux business que tu développes pour être hyper rapide, très itératif, pour vite aller trouver t'appelais ça le channel fit, j'ai bien aimé le terme. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on fasse un article là-dessus, mais super intéressant.
Ouais. Et le product market fit, sûrement, et le channel fit. Ouais.
Mais garder ce framework-là pour dire on va vite.
Je pense que le monde tourne de plus en plus rapidement. Et du coup, il faut rester très agile pour savoir s'adapter et toujours retrouver un peu les nouveaux axes de développement. Ouais.
Est-ce que tu as une routine ou des habitudes à côté de la boîte qui font que tu gardes la forme ?
Ouais, j'aime bien. Je fais pas mal de sport. Donc,
on dirait pas.
Les éditeurs, ils vont regarder la chaîne YouTube.
Je me lève tôt le matin, enfin un peu plus tôt le matin, justement avant d'emmener. Quand je suis à la maison, j'aime bien emmener mes enfants à l'école. Donc, je me lève un peu plus tôt. Hop, comme ça, j'ai une séance de sport. Je me suis fait une petite salle à la maison.
Si tu peux donner des cours à Juju éventuellement.
Bon, chacun son truc aussi après.
Ouais, c'est pas le tien.
Ta routine à la maison.
Ouais, j'ai ma routine.
Je suis balèze, moi, les mecs, vous croyez quoi?
tu veux prendre ma place et te mettre à côté pour la vidéo?
Mosley, il était sec, il était balèze.
C'est vrai.
Ok, ouais. Je pensais là, va être dans le best-of.
Okay. Beaucoup de sport.
Ouais, beaucoup de sport.
Beaucoup de sport, amener les enfants à l'école.
Surtout le matin et le week-end aussi, essayer de faire des activités en extérieur, dans la nature. Ça.
Tu vois que les gens du Sud, on sort.
Je sais, c'est de vos qualités.
Ouais.
Est-ce que tu as un livre que tu recommandes particulièrement, qui t'a plu, que tu as lu ?
Alors, il y a un livre qui est un peu barbant, mais c'était les 4 Steps to Epiphany. Je pense que la plupart des entrepreneurs le connaissent, mais il n'est pas évident à lire. Hein. Mais je pense que le concept est bien, justement, de cette forme d'agilité, de dire sortez de chez vous pour justement rencontrer des clients, des partenaires et autres pour comprendre ce dont a besoin le marché, comment vous pouvez adapter votre solution et autres. Ça, c'est un peu des bases quand même de ce dont on parlait, un peu cette agilité aussi d'entrepreneur. Après, bon, j'ai bien aimé toutes les études un peu à la Jim Collins, tous les livres qu'il a fait, là, les Good to Great, le Build to Last et autres, parce que ces patterns.
Et comme tu es dans le temps long en plus, ça va te parler, je pense.
Ces patterns sont assez intéressants. Ouais. D'accord.
Et est-ce qu'il y a une personne qu'on peut contacter de ta part pour l'inviter à ce podcast?
Ouais, je vais. J'y réfléchis. Il faut juste d'abord que je lui pose la question.
D'accord.
Il y a Voyage Privé avec Aix-en-Provence.
Non, mais il y en a plusieurs. Il y a Colis Privé aussi.
Ouais, je sais pas. C'était un bel écosystème.
Bel entrepreneur aussi. Mais. Donc je vais juste leur poser la question.
Pas d'engagement maintenant.
Avant de balancer leur nom sur le podcast.
C'est un peu engageant. Écoute, merci beaucoup. C'était super passionnant.
Ouais.
Et à bientôt.
Merci.
Ciao.